Debiaio de Biasso. Debiaio de Biasso, votre émission qui traite de musique, de lettres et de culture occitane, avec Guillaume Boucher.
Bonjour à tous et bonjour à tous. Nous tournons trouver l'émission Debiaio de Biasso, l'émission qui parle de la langue occitane, de la culture du pays, ou même de la culture du monde. Aujourd'hui, de qui on en parle? Eh bien, nous sentons déjà que le monde parle cours de patois, cours d'occitan. Mais dis la vérité, de qui ne biro? Oui, patois ou occitan, nous avons remarqué qu'il y a des difficultés à nommer sa langue selon les personnes avec lesquelles vous échangez. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un débat qui a longtemps animé et anime encore des prises de position de celles et ceux qui cherchent à nommer leur langue. En effet, quand on parle de la langue vernaculaire de notre département, du Lot, et le cas se répète dans une trentaine de départements du sud de la France, il n'est pas rare d'entendre les phrases suivantes « Iu parli patouer, l'occitan cojo Toulouse » ou bien encore « L'occitan cojo la télévisio ». Vous entendrez, l'occitan c'est à la télévision, ou l'occitan c'est à Toulouse. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la télévision est, non sans raison, associée à la ville de Toulouse, ce qui place nettement le terme d'occitan dans un rapport d'altérité avec celui de patois. Autrement dit, on ne parlerait pas de la même chose, mais à y regarder finement, qu'en est-il vraiment? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre après l'écoute d'une série de bourrées interprétées au chant et au piano par M. Louis Debron et sa chorale. Cet enregistrement nous rappelle une manière qu'ont eu les milieux auvergnats de Toulouse, en l'occurrence ce sont des Cantalous, de mettre au goût de leur époque le répertoire traditionnel, ici des bourrées. En effet, dans les campagnes, le bourré était rarement accompagné au piano, et c'est une pratique de salon qui a voulu s'adapter au contexte citadin qui nous a été présentée dans cet enregistrement. Mais pour revenir à notre sujet, eh bien, qu'en est-il de cette différenciation qu'il y aurait entre le patois et l'occitan? Car la langue des chansons qui viennent d'être interprétées, aujourd'hui, on dirait communément que c'est de l'occitan. Et le terme d'occitan est, au moins dans les médias, à l'école, tout à fait accepté. Mais il y a encore des gens pour parler de patois. On pourrait dire que nommer sa propre langue dépend d'un certain état de maturité des sociétés qui la parlent. Qu'est-ce que c'est que cette maturité? On pourrait dire qu'elle peut tenir à la conscience qu'un peuple a de lui-même, de son organisation administrative et pédagogique, de sa manière de se situer dans l'histoire et de la transmettre aux générations suivantes, de son rapport à l'altérité, ce qui nous est semblable, ce qui ne l'est pas. Oui, c'est cette manière qu'on a de se situer dans le monde, qu'on a de se situer dans le temps, cette manière qu'on a de se différencier par rapport à nos voisins, qui nous permettrait, eh bien, de faire les contours de notre identité. Et dans l'identité, d'une personne, on peut éventuellement invoquer le sexe, un homme, une femme, on peut invoquer des traits physiques, grand, petit, brun, on peut invoquer des traits d'origine géographique, et puis la langue, rentre en compte éventuellement pour l'identité. Mais quand on parle d'identité collective, là, on ne parle plus de traits physiques, mais on cherche ce qui peut relier des individus entre eux. Et parmi les phénomènes qui relient des individus entre eux, eh bien, on trouve la langue. Alors, pour le cas de la France, c'est assez particulier, mais ce n'est pas un cas isolé. Et ce qu'on peut dire pour la France, et c'est aussi vrai ailleurs dans le monde, c'est qu'il est longtemps resté difficile de nommer une langue autre que le français, à partir du moment où le pouvoir s'est trouvé dans la partie francophone de notre pays. Nous parlons de la partie francophone, évidemment, car l'histoire de la France, pour beaucoup, s'est constituée autour d'une organisation du pouvoir autour de Paris, et la langue qui s'est diffusée, eh bien, était un parler francilien d'Île-de-France. Car la langue d'un francophone, qu'un francophone entend en France, dans la bouche d'un français, eh bien, pendant longtemps, elle n'a pas été reconnue comme du français, eh bien, elle a été nommée comme patois. Alors, mais quelle est l'histoire de ce terme ? L'excellent site Internet Wikipédia le résume très bien dans la phrase suivante. Bien que souvent utilisé par les locuteurs des langues régionales eux-mêmes, le terme résulte en France d'une lente aliénation culturelle par laquelle les autorités voulurent faire croire aux Français parlant une langue autre que le français que leur langue n'en était pas une, qu'elle n'était qu'une déformation locale de la langue française. Alors tous les mots sont pesés et tous les mots ont un sens. Et quand on parle d'aliénation, eh bien, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est-à-dire que forcer les gens à changer de langue, comme ça a été le cas dans le cadre de l'armée, ça a été le cas dans le cadre de l'école, eh bien, c'était forcer à être autre que ce que nous étions. L'aliénation, c'est devenir un autre. Alors, il peut y avoir des aliénations volontaires, mais il peut aussi y avoir des aliénations contraintes. L'usage du mot patois est en France depuis plusieurs siècles un usage politique de la part des autorités francophones. Il est un outil de hiérarchisation des langues en France, la langue du pouvoir, le français, et la langue des sujets, puis des administrés, le patois. Puis de domination culturelle administrative. Le français serait la seule langue qui s'écrit, qui produit des œuvres. Le patois ou les patois, eh bien, se pratiquent à l'oral, sont plutôt situés dans la ruralité et sont plutôt adaptés pour l'intimité et puis parler aux bêtes ou de sujets légers. Pourtant, l'excellente linguiste Henriette Walter précise que dans le langage des linguistes, comme de la majorité des gens qui parlent une langue de France autre que le français, le patois n'est que le résultat d'une évolution du latin ou d'une autre langue, germanique, celtique ou d'une autre famille, à l'échelle d'une ville ou d'un village. Et d'ajouter, la même Henriette Walter, que le français n'est qu'un patois qui a réussi. Comprenez « réussi » au sens politique et administratif, car une langue ne réussit uniquement qu'en relation à un pouvoir qui la soutient. Alors, nous remuons beaucoup d'idées là-dedans et ne croyez pas qu'il s'agit d'un parti pris. Vraiment, ce sont des linguistes qui parlent et ce sont des linguistes qui ont aussi écrit dans l'article de Wikipédia qui, en général, cherchent à être le plus objectif possible. S'intéresser à ce que serait le patois ou à ce que serait la diversité linguistique en France, ce n'est pas remettre en cause la pratique du français, ce n'est pas remettre en cause la réussite du français. Mais c'est interroger les rapports qu'ont entretenus les langues et qu'entretiennent encore aujourd'hui les langues de France, des rapports de domination, des rapports de suggestion, des rapports quelquefois conflictuels, mais aussi des rapports qui quelquefois se nourrissent l'un l'autre. Car les langues sont faites aussi d'échanges et on voit énormément d'emprunts qui sont faits par le français aux langues de France. J'en veux pour exemple le mot baragouiné. Sûrement vous connaissez l'origine du mot baragouiné, alors qu'il viendrait lui du breton, bara, et qui veut dire le pain, et gouin, qui veut dire le vin. Et alors, dans les tranchées, baragouiné, c'était savoir dire l'essentiel, c'est-à-dire le pain et le vin, avoir à boire et à manger, et donc baragouiné, c'était dire le strict minimum. On pourrait trouver tout un tas de mots que l'Occitan a donné aux Français. On en voit certains dans l'argot, par exemple les grolles. Les grolles qui sont des chaussures qui sont usées, qui sont bonnes pour sortir de l'usage. Eh bien, une groule en occitan, c'est tout simplement une ruine. Les mots d'escalade aussi, par exemple. Escalade, où on lit bien le mot d'escalo, une escalo qui est une échelle, tout simplement. Mais avant d'aller plus loin sur ce qu'est le patois et sur ce qu'est l'occitan et quelles relations entretiennent les deux termes, je vous propose de voyager outre-Pyrénées et d'écouter une musique d'appel à la procession en Aragon, en Espagne.
À Saint-Bertrand de Comminges, 94.1.
Cette musique d'Aragon, qui est une province espagnole frontalière de la région Occitanie, eh bien, nous ramène à notre Occitanie et au terme d'Occitan, justement. Alors, qu'en est-il des gens de notre pays à l'égard du patois et de l'Occitan, et surtout à l'heure d'une région qui s'appelle aujourd'hui Occitanie? Alors, parmi les gens qui l'ont toujours parlé, le terme patois est naturel. Ils l'ont toujours entendu dire pour différencier leur langue du français. Et selon les caractères et les histoires de vie, certains l'ont abandonné au profit du seul français, d'autres l'ont entretenu. Rares sont ceux qui l'ont transmis, après qu'ils étaient du discours des autorités que le patois serait une gêne à la réussite sociale et intellectuelle. Pourtant, les illustres noms de Gambetta et Jaurès, ou de l'excellent juge Malrieux de Figeac, qui ont brillé en droit, en lettres et en philosophie ou en politique, et dont on sait qu'ils parlaient patois avec les gens de leur pays, suffisent à démentir cette idée. Mais par rapport au mot patois, qui manquait de précision, et dont l'étymologie, soit l'origine, renvoie au vieux verbe français de l'ancien français « patoyer », qui veut dire « parler avec des gestes », ou, selon une autre hypothèse, qui renverrait au latin « patria », à savoir le lieu de naissance, le lieu de nos pères, certains ont voulu nommer ce qu'était la diversité des parlers du sud de la France. Et cette entreprise de nomination, eh bien, elle est bien plus ancienne qu'on le croit. Et déjà, dès le XIIIe siècle et au XIVe siècle, en suivant, on a commencé à chercher cette identité linguistique. Dans certains textes du latin administratif de ces époques, on trouve la mention de « lingua occitanica » en opposition à la « lingua franca ». Vous aurez compris la langue occitana en opposition à la langue franque, qui ensuite est devenue la langue française. Pour désigner la langue parlée dans le sud de la France. De là le nom d'Occitan. On reconnaît bien lingua occitanica, occitan. L'autre source, qui est souvent invoquée, est l'écrivain italien Dante Alighieri, qui dans un essai écrit en latin De vulgari eloquentia, essaie de nommer avec ses connaissances de l'époque les espaces linguistiques selon la manière de dire oui. C'est ainsi que pour toute la péninsule ibérique et pour toute la botte de l'Italie, il qualifie ces langues de lingue del si, car la manière de dire oui est de si. Il identifie toute une partie de la France, située plutôt au nord, comme des lingue d'oil. Oil qui est la vieille manière de dire oui. Et enfin, pour la partie sud de la France, il parle des lingue d'oc, comprendre lingue d'oc, la langue d'oc. Langue d'oc ou occitan. Car la manière de dire oui, eh bien, se dit O. On ne prononce plus le C final, mais on dit O. O, B, oui, d'accord. C'est ainsi qu'à partir de la Révolution, et tout au long du XIXe siècle, et surtout à partir du XXe, que des écrivains, alors, pour la Révolution, nous trouvons un nommé Raynouard, au XIXe, on parle de Chateaubriand, et puis dans la foulée, on va trouver au XIXe et au XXe de nombreux prêtres, parmi lesquels dans le Lot, Jules Cubain, Sylvain Tools ou Arthur Roussille, et des instituteurs aussi, tels qu'Antonin Perbosque ou Toussaint Laborie. Eh bien, ces écrivains vont tâcher de faire rentrer dans l'esprit commun la relation entre le patois et l'occitan, ou Languedoc. Ce qui n'était pas vraiment gagné, parce que les gens avaient toujours entendu parler de patois. Et ce n'était pas un terme du tout dépréciatif. On parlait patois, point. Même beaucoup de gens disent « Oh, mais chauvert, une histoire en patois, eh bien, est plus chauve rouge que non pas en français. » Une histoire en patois, elle est bien plus savoureuse qu'en français. Il y a vraiment un rapport d'intimité. Mais cette langue ne se limite pas à l'intimité dans l'esprit des gens, et nous en avons plusieurs exemples. Cette conscience d'une communauté par-delà les différences, eh bien nos anciens l'ont toujours eue. Ils savaient qu'on disait « Luca m'a mangia lupa di lama » à Montcuq, mais « Luco m'a mangia lupo di lomo » à Losès, et même « Luci m'a mangia lupo di lomo » à Souillac. Qu'on dit « Endon cobaye » à Gourdon, et à Figeac on dit « Olera cobo », et à Castelnau-Montrati on dit « Alabé bapla », mais ils savaient qu'ils parlaient tous une même langue du fait de l'intercompréhension. Combien de prisonniers de guerre et de STO nous ont raconté avoir parlé patois en Allemagne dès qu'ils trouvaient un concitoyen du sud de la France? Combien d'anciens de l'Algérie nous ont raconté avoir parlé patois avec des gens du Tarn ou de l'Aude quand ils furent mobilisés? L'altérité se trouvait véritablement ailleurs. Non pas tant entre les différences qu'il y avait au sein de l'Occitan, et que les gens appelaient patois d'ici ou patois de là, mais elle se trouvait bien plus loin. Et c'est ainsi que nous avons entendu dans la bouche d'autres anciens « Et Jonathan en France », il est allé en France, pour dire qu'ils étaient allés au-delà de Limoges, vers le nord. Déjà l'archiviste Suzanne Dobelmann le relevait des vieux de Cahors dans les années 1940, et c'est la même expression que le poète cadurcien Clément Marot utilisait au XVe siècle pour décrire son départ pour Paris. Ce qui a desservi, si vous voulez, l'Occitan et qui a favorisé l'usage des patois, c'était premièrement qu'il n'était pas compris par les francophones, et de deux qu'il y avait une diversité que tendait au contraire l'effort d'unification nationale qui passait par l'effort de l'unification de la langue, eh bien, qui tendait à remettre en cause cette question d'unité. Aujourd'hui, on ne pense plus que la diversité, fort heureusement, nuit à l'unité. Bien au contraire, que l'une et l'autre peuvent dialoguer. Mais pendant longtemps, ces idées ont été en but. Aujourd'hui, grâce aux efforts des associations, des pédagogues éclairés, des conteurs, des musiciens, des collecteurs, des ethnologues, des écrivains, des scientifiques, le regard des gens change et petit à petit rentre dans le sens commun que le patois parlé par les uns et les autres fait partie du grand ensemble occitan. Ce grand ensemble occitan qui ne se limite pas à la dite région Occitanie, mais qui comprend, du point de vue linguistique, le Limousin, une bonne partie de l'Auvergne, la Provence, le Vivarais, la Gascogne. L'adoption du nom Occitanie pour la nommé l'Association des anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, après une large consultation citoyenne, est assez représentative de cette évolution. Le défi pour demain est le suivant. Pour ne pas rester lettre morte ou coquille vide, il faut que la dite région Occitanie se bâtisse dans la promotion de sa langue et de sa culture. Sa langue et sa culture qui concernent certes une bonne partie de l'espace français, mais qui se déploie au-delà des Pyrénées dans une vallée qu'on appelle le Val d'Aran et qui se déploie dans une dizaine de vallées occitanes d'Italie, dans les Alpes italiennes. Et pour finir cette émission, nous allons écouter un duo de deux musiciens, Dario et Emanuele, accordéoniste et clarinettiste d'une de ces vallées occitanes d'Italie, a chi c'è un contento di vous far écouter, c'è un contento di vous tornare a trovare un altro record di la nostra emissione De Biaio De Biaso, buon escuto e al cocche be.
C'était votre émission De Biaio De Biaso, une émission qui traitait de musique, de lettres et de culture occitane en compagnie de Guillaume Boucher.